France Musique. Samedi 14 novembre, soyez les bienvenus sur France Musique. Félix Levaché est à la réalisation, Emmanuel Mordinquant et Emmanuel Rose à la technique. Une semaine de plus rythmée par ce confinement et des annonces certes encourageantes quant à l'évolution de cette pandémie, mais qui ne nous permettront cependant pas de frissonner de bonheur dans une salle de concert dans l'immédiat. Alors sur France Musique, je vous offre ce matin l'opportunité de goûter aux délices de la musique avec des artistes comme la violoncelliste Astrid Cyranossian qui nous fera entendre de la musique arménienne à 7h45. À 8h, Marc-Olivier Dupin nous expliquera dans sa chronique pourquoi Bach est le plus écolo des compositeurs. Comment préparer les concerts des musiciens amateurs en ces temps de confinement? Marie Jiquel nous emmènera dans son reportage assister à une répétition clandestine. Et à 8h30, notre invité sera Timothée Fleury, responsable du bureau d'études de l'Opéra de Lyon, maison pour qui l'éco-construction de décors n'a plus aucun secret. Enfin, à 8h50, notre rendez-vous avec Christophe Chassol. Très bon réveil à l'écoute de France Musique.
Thank you.
La berceuse opus 57 de Frédéric Chopin, interprétée par Bertrand Chamaillou sur cet album Good Night, paru chez Ratou au début du mois d'octobre, en partenariat avec France Musique, un voyage apaisant composé de 16 berceuses à découvrir dont on a bien besoin. Et puis il y a les concerts, bien sûr, en cette période de fermeture au public de ces salles. Eh bien, France Musique diffuse les concerts des formations de Radio France, en direct ou en différé. Le jeune chef ouzbek Aziz Chokakimov, qui a récemment été nommé directeur musical et artistique de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, eh bien ce chef dirigera deux concerts à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ce sera les 20 et 25 novembre prochains, concert à écouter sur France Musique, bien sûr. Alors vous vous rappelez peut-être de ce chef, Aziz Chokakimov, et de ce disque qu'il avait enregistré avec le clarinettiste Raphaël Sever. C'était en 2017, en voici un extrait. Le premier mouvement du concerto pour clarinette numéro 1 de Carl Maria von Weber. Thank you. Le premier mouvement Allegro du premier concerto pour clarinette de Carl Maria von Weber, interprété ici par le clarinettiste Raphaël Sever, le Deutsche Symphony Orchestra Berlin et Aziz Chokhakimov à la direction. Il est 7h45 sur France Musique. Et c'est l'heure du choix musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin la violoncelliste Astrig Cyranocian. Bonjour Astrig.
Bonjour Saskia.
Vous allez bien?
Mais oui.
Mais merveilleusement bien. Je suis ravie de vous entendre. Je suis ravie de discuter de vos nombreux projets malgré cette période très particulière que traverse la majorité des artistes. On peut dire que vous êtes bien occupée, Astrig.
Eh bien, j'ai trouvé le moyen de m'occuper, malgré cette crise et malgré le fait que nous ne sommes pas tellement autorisés à nous produire en tant que musiciens, mais voilà, j'ai trouvé quand même de quoi m'occuper.
Et effectivement, cela correspond, cette période, à la sortie d'un album, Dear Mademoiselle, dont nos auditeurs ont peut-être déjà entendu parler depuis quelques jours, album qui paraît chez Alpha, un hommage à Nadia Boulanger, une personnalité inspirante à plus d'un titre, Astrig.
Eh bien, c'est une personnalité qui a aussi su se diversifier. Et c'est peut-être aussi ce qui m'inspire en ce moment pour trouver de quoi m'occuper sans être forcément sur scène avec une violoncelle. Je pense que c'est une personnalité qui a énormément fait sur une très longue période et qui a un héritage absolument fascinant qu'on peut entendre à travers beaucoup d'élèves qu'elle a pu avoir et dans différents styles musicaux. Voilà, c'est ce qui m'a fascinée aussi, de me rendre compte que le XXe siècle a pu ouvrir une diversité musicale assez unique.
Et effectivement, le programme est très éclectique, hein, du Nadia Boulanger, bien sûr, mais on peut entendre des pièces d'Astor Piazzolla, Elliot Carter, Philip Glass, Quincy Jones même. Vous en parlerez la semaine prochaine avec Jean-Baptiste Urbain, puisque vous serez l'invité de la matinale le 18 novembre. Mais ce matin, j'aimerais qu'on parle d'un autre projet, de votre investissement, de cette association que vous avez fondée, Astrig, Spidak Sevan. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est une association que j'ai voulu créer assez rapidement. Je me suis rendu compte que quand même, en tant que musicienne, nous pouvions apporter de l'aide à travers la musique, parce que c'est un véhicule incroyable d'émotions. Mais évidemment, pour aussi des enfants, surtout, je pense que la transmission aux enfants, c'est quelque chose d'assez important, d'assez primordial. Et puis, le fait d'avoir des origines arméniennes m'a poussée, voilà, à vouloir aider en Arménie, puisque, évidemment, c'est un pays quand même un peu plus défavorisé que la France ne peut l'être. Donc, voilà, j'ai voulu apporter de l'aide à travers la musique aux enfants. Et en ce moment, donc, j'étais un petit peu occupée, puisqu'il y a eu une guerre et qu'il y a beaucoup de réfugiés en Arménie, donc beaucoup d'enfants. Et donc, voilà, je fais des missions pour aller leur apporter de la musique et les occuper à travers des ateliers musicaux pour qu'ils oublient un petit peu la difficulté et les moments difficiles de guerre.
Et c'est vrai que l'actualité est particulièrement difficile en Arménie pour le moment, on le suit bien évidemment. Vous avez d'ailleurs séjourné en Arménie à la fin du mois d'octobre, début novembre. Quel a été votre ressenti sur place, Astrig Cyranocian ?
Oui, mais c'est assez triste de voir que les guerres un petit peu, voilà, se répètent, les guerres se répètent, qu'il y a des réfugiés. Pour moi, c'est évidemment, je suis française, donc je n'ai pas rien connu, j'ai pas connu de guerre, mais ce sont des pays quand même dans cette partie du monde qui vraiment connaissent la guerre. On sent que les populations sont habituées à vivre dans un espèce de chaos et puis d'incertitude aussi, de savoir où est-ce qu'elles vont pouvoir vivre. C'est très intéressant parce qu'à travers la musique, par exemple, ça m'a vraiment fait beaucoup penser à un deuxième concerto de Shostakovich pour violoncelle. Donc la musique a ça aussi d'incroyable, c'est qu'on peut ressentir des émotions d'une situation à travers la musique avant de pouvoir les ressentir en vrai dans la vie. Donc voilà, ça. Mais bon, en tout cas, la nécessité d'aider pour moi a toujours été très présente et si je peux être utile sans pouvoir monter sur scène et en aidant des enfants à travers la musique, je trouve que c'est aussi le moyen de d'exister en tant que musicienne et de rendre la musique utile.
Et de partager cette musique, effectivement, voilà. Astrig. On va parler de votre choix musical. Vous nous avez fait le plaisir de faire ce choix. J'ai découvert ça grâce à vous. Je trouve ça magnifique. Je vous laisse nous présenter ce que vous avez choisi.
Oui, alors j'ai voulu faire évidemment un petit clin d'œil aux enfants à l'Arménie. Et il y a une chorale absolument géniale qui s'est créée en 92 au sortir de la première guerre du Haut-Karabakh au moment de l'indépendance de tous ces pays post-soviétiques. C'est une chorale qui s'appelle Little Singers of Armenia. Voilà, c'est constitué de petites filles et petits garçons qui chantent et qui, à la base, donc, se sont retrouvés pour un petit peu remettre sur pied tous les orphelins de la guerre. Et donc, ça fait vraiment sens, même en 2020. Je les trouve vraiment hyper touchants, je les connais bien. Et puis, donc, j'ai décidé de vous proposer ce matin une interprétation d'une mélodie populaire de Comitas. Voilà, donc ils sont a cappella et ça parle des montagnes et ça parle du printemps dans les montagnes. C'est plutôt assez positif.
Merci beaucoup Astrid Cyranossian. On vous souhaite le meilleur pour la suite et je le rappelle, on vous retrouve eh bien le 18 novembre prochain dans la matinale de Jean-Baptiste Urbain pour évoquer ce nouveau disque qui paraît chez Alva. Merci beaucoup Astrid. Merci. Bonne journée.
Bonne journée Paris-Vent.
Le printemps dans les montagnes arméniennes, chanté par les Little Singers of Armenia. C'était le choix musical de la violoncelliste Astrid Cyranossian, rien que pour nous ce matin. Et vous en avez déjà certainement entendu parler cette semaine sur France Musique. Le Centre de Musique Baroque de Versailles lance l'ExpoCast, exposition virtuelle qui présente l'histoire de la musique baroque française en 6 podcasts de 10 minutes chacun. C'est notre chère collègue Suzanne Gervais qui vous les raconte. Vous en trouverez les liens sur le site francemusique.fr. Alors à cette occasion, je vous offre un disque enregistré sur le grand orgue de la Chapelle Royale de Versailles, justement. Orgue historique inauguré par le Roi Soleil lui-même. S'il vous plaît, aux commandes l'organiste Gaëtan Jarry. et cet album s'intitule Le Grand Jeu. Alors pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur Contactez-nous, vous nous laissez vos coordonnées complètes et puis la bonne réponse à la question qui va suivre. Vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres. Alors ce matin, je vous propose de deviner le nom réel du Roi Soleil. Est-ce Philippe de Belgique, Louis XIV ou Charlemagne? Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Contredanse en rondo, extrait des Boréades de Jean-Philippe Rameau, joué ici par Gaëtan Jarry, un extrait de ce disque Le Grand Jeu, florilège d'œuvres baroques françaises enregistrées par l'organiste sur le grand orgue de la Chapelle Royale de Versailles. Disque à remporter ce matin, il faut pour cela, je vous le rappelle, deviner le nom du Roi Soleil. Est-ce Philippe de Belgique, Louis XIV ou Charlemagne? Rendez-vous sur francemusique.fr. Sur la page de l'émission Musique Matin, vous cliquez sur Contactez-nous et vous nous envoyez votre bonne réponse pour tenter votre chance.
Les orchestres de Radio France continuent de jouer pour vous sur France Musique, francemusique.fr et Arte Concert. En novembre, en direct de l'auditorium de Radio France et du Studio 104, retrouvez l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et de nombreux artistes invités. Barbara Hannigan, Christian Macellaru, Xavier Phillips, Francesco Piemontesi, Aziz Chokakimov, interprètes Schubert, Bartok, Mozart, Tchaïkovski, Poulenc. Restez au cœur du concert. Information maisondelaradio.fr.
Au cora couleur du monde, tous les samedis de 23h à minuit sur France Musique, une nouvelle saison de découvertes, portraits, concerts, reportages à l'écoute de la formidable diversité musicale du monde et en podcast sur francemusique.fr.
France Musique, il est 8h.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Et c'est l'heure de la chronique de Marc-Olivier Dupin, battement de cœur. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Bonjour Marc-Olivier, je crois qu'il y a un petit décalage, mais je pense qu'on va y arriver, on va essayer du moins, parce qu'on aimerait beaucoup vous entendre sur ce sujet. Jean-Sébastien Bach, le plus écolo des compositeurs, vous nous montrez comment il utilise un choral de multiples façons.
Oui, Jean-Sébastien était un extraordinaire adepte du recyclage musical et suivons à la trace un choral intitulé Christlag, mon allemand est épouvantable, Christlag in Todesbanden sur un thème ancien utilisé par de nombreux compositeurs de son époque. D'abord le choral harmonisé par Bach à quatre voix tel qu'il pouvait être chanté au temple le dimanche matin. Et il le réutilise de multiples façons, vocalement et instrumentalement. Dans l'extrait de l'Orgelbüchlein qui va suivre, l'organiste joue à la main droite la mélodie de ce choral, pendant que ça tricote en dessous dans les autres parties, et y compris au pédalier. Alors Bach trouve comme intérêt à reprendre la mélodie probablement l'idée de retrouver un thème connu. Le fait de retrouver un thème connu est une source de plaisir pour l'auditeur, c'est à la fois le mettre en terrain familier et en même temps lui permettre toutes sortes finalement de découvertes et au compositeur des audaces très novatrices. L'idée de reprendre un thème écrit par d'autres est d'ailleurs toujours d'actualité. Par exemple, aujourd'hui, on est très content de réentendre les multiples reprises de Bohemian Rhapsody, par exemple. Mais pour revenir à ce choral, j'ai une petite confidence à vous faire. Saskia, je suspecte Mendelssohn.
Et on a un petit problème technique avec Marc-Olivier qui suspecte Mendelssohn d'avoir aussi emprunté le début de ce choral de Bach pour composer le thème de ses variations sérieuses. On va les écouter et puis on va retrouver Marc-Olivier. Et Marc-Olivier, on vous retrouve. Parlez-nous de la réutilisation de ce choral pour chœur.
Eh bien, finalement, Bach le réutilise dans la magnifique cantate éponyme, donc Christlag in Todesbanden BWV 4, dans ce chœur absolument extraordinaire.
Et merci beaucoup Marc-Olivier pour cette chronique un petit peu chahutée. En tout cas, on a hâte de vous retrouver en studio dès que le confinement sera levé pour partager encore ces nombreuses chroniques qui nous sont si chères. Marc-Olivier, je vous souhaite une très belle journée.
Merci Saskia, vous aussi.
Merci.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Freundlich mich schmücken, dienst die glücklichen heute mir. Windet geschäftig mir um die Stirne, noch die blühenden Myrte dir.
Süßer Freund,
Qu'est-ce que j'aime entendre ce cycle, L'amour et la vie d'une femme de Robert Schumann, splendide musique. Un extrait du premier récital solo chez Dodd Gramophone pour la mezzo Elina Garancia, accompagnée par le pianiste écossais Malcolm Martineau. Elle ouvre donc ce programme de disque avec ce cycle magnifique dont nous écoutions deux extraits ce matin. Il est 8h11. Dans quelques minutes, eh bien, nous recevrons Marie Jiquel pour le reportage du jour. Juste avant cela, direction la Russie, Tchaïkovski et une valse. Vladimir Jurovski à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Londres avec cette valse, deuxième mouvement de la sérénade en ut majeur de Tchaïkovski à 8h et presque 16 minutes sur France Musique. Comment préparer les spectacles, les concerts de demain en ces temps de confinement? Le Premier ministre Jean Castex a fait savoir fin octobre que les répétitions, les tournages et les enregistrements étaient autorisés. Oui, mais pour les musiciens amateurs, se réunir les uns chez les autres, ça ne semble pas justifiable auprès des autorités. Marie Jiquel a tenté de rencontrer ces amateurs qui répètent dans l'ombre.
Voilà, un truc dans le genre là. Sur ce mood un peu confinement, novembre.
Vincent, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un ado rebelle ?
Oh non, j'espère pas.
Il ne se prend pas pour un adolescent rebelle, plus pour un musicien qui a respecté le premier confinement, mais qui craque un peu pour le second. Avec son groupe de rock, Vincent décide de maintenir les répétitions malgré les restrictions sanitaires. Alors plusieurs musiciens amateurs comme lui bravent aussi l'interdit, mais eux assument moins et ont refusé de raconter ces répétitions clandestines au micro de France Musique. Vincent reçoit donc chez lui les autres membres de son groupe qui se déplace avec des attestations falsifiées.
Alors la première, c'est il disait qu'il allait faire ses courses. Il avait besoin de m'emprunter une guitare pour une session d'enregistrement à lui aussi. Donc du coup, officiellement, il allait chez son luthier. Et l'autre, il s'est fait une atteste professionnelle comme quoi il allait en rendez-vous. Ça nous ennuie un peu de contrevenir à la règle. C'est pas dans nos habitudes. On préfère faire les choses comme il faut, mais là, ça nous démangeait trop de nous voir. Donc, il y avait cette partie de risque. Voilà, qu'on aurait assumé quoi qu'il arrive, mais qui est un peu déplaisante.
D'habitude, le groupe répète dans un studio fermé en ce moment. C'est donc dans sa maison de banlieue parisienne que Vincent a aménagé un studio.
Là, par exemple, en studio, c'est chacun ses instruments. Le micro, c'est le chanteur, point barre. S'il y a une ligne de chant, j'ai une idée, je vais pas aller prendre le micro et dire « Tiens, moi, je ferais bien comme ci, je ferais bien comme ça. » C'est sûr qu'il n'y a pas cette convivialité comme on peut la connaître dans les temps ordinaires, comme ça pouvait être le cas même il y a encore quelques semaines. Et comme je te disais, comme on laisse ouvert la fenêtre, la température de la pièce varie beaucoup. Et du coup, ça joue sur l'accordage des instruments. La guitare, ça travaille un peu, mais ça va. Le saxophone, par contre, c'est une catastrophe.
Alors, le groupe a bien tenté les répétitions virtuelles, mais elles se transformaient souvent en apéro devant son écran. Enfin, pour ne pas multiplier ces sessions interdites, les musiciens en profitent et se réunissent toute la nuit et se quittent le lendemain avec de nouvelles fausses attestations.
Un reportage signé Marie Jiquel. Merci beaucoup Marie et à la semaine prochaine.
Thank you.
Carl Nielsen, l'une de ses trois pièces pour piano, cette impromptue musique pour piano, peu connue, même des musiciens, même parmi les pianistes scandinaves, mais elle a inspiré Leif Ove Andsnes dès ses débuts, comme sur ses disques enregistrés en 1996 et paru chez Virgin, que j'avais envie de vous faire entendre ce matin. Et puis un petit mot sur votre soirée sur France Musique, ce soir à 20h, au programme Hippolyte et Arissi, splendide opéra de Jean-Philippe Rameau, qui sera diffusé en direct sur France Musique. Cette production de l'opéra comique, mise en scène par Jeanne Candel, a heureusement été maintenue malgré ce reconfinement. L'opéra sera donc donné sans public dans la salle, mais rien que pour nos oreilles sur France Musique. Sur scène, vous pourrez entendre notamment le ténor Reinhard van Mechelen qui chantera Hippolyte, la soprano Elsa Benoît qui chantera Arissi, et puis Stéphane Degout, mon chouchou, hein, qui chantera lui Thésée. Dans la fosse, l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon. Je vous propose bien d'écouter l'ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon et puis Stéphane Degout ici dans cet extrait d'Hippolyte et Arissi.
Dieu, dans ses yeux, un seul se dérobe à mes yeux, par mes cris redoublés. Vainement, je l'appelle, mes cris ne sont point entendus. Ah, montrez-moi, Pythonus, craignez-vous qu'à l'aspect d'un anis fidèle, ces tourments. Traîne-moi jusqu'à dire, table bénie de mia, je prends ton flambeau pour guide.
La mort, la seule mort, nous
mort propice, mort favorable. Pour me rendre moins misérable, commence donc à me
vengeur à l'univers. inflexible. Dieu des mers, c'est à toi qu'il me faut recourir. Que ton fils en son père éprouve un cœur sensible. Trois fois dans mes malheurs, tu dois me secourir. Le fleuve, oh Dieu même terrible, et qui n'ose jamais attester mes noms.
Stéphane Degout aux côtés de Mathias Vidal, Thomas Dolier, Nicolas Courjal, l'ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon ici avec cet air extrait d'Hippolyte et Aricie de Jean-Philippe Rameau. Dieu, que d'infortunés gémissent en ces lieux, air de Thésée, que vous pourrez entendre en direct sur France Musique. Ce soir, l'intégralité de cet opéra sera à entendre, bien évidemment. Ce soir en direct sur France Musique dès 20h, présenté par Judith Chen. Et puis en parallèle, diffusé sur Arte Concert aussi au même moment si vous souhaitez eh bien voir la mise en scène de Jeanne Candel de cet opéra, de l'opéra comique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et depuis quelque temps déjà, l'Opéra de Lyon s'est lancé dans un vaste chantier axé sur le développement durable, sur l'écologie. Comment verdir une production d'opéra au décor titanesque? Comment améliorer la gestion des décors en fin de vie? Comment mieux collaborer entre opéra coproducteurs? Divers projets ont ainsi vu le jour, développés par le bureau d'études de la Maison Lyonnaise. Et nous en parlons ce matin avec notre invité, le responsable de ce bureau d'études. Bonjour Timothée Fleury.
Bonjour Saskia Deville.
Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer eh bien, ces nombreux projets mis en œuvre par l'Opéra de Lyon. Mais d'abord, une toute première question, Timothée Fleury. L'opéra est-il un art écologique?
Eh bien, pour l'instant, en effet, pas tellement. Mais on travaille de plus en plus et les mentalités changent beaucoup dans la prise en compte justement de l'impact environnemental des productions d'opéra.
Une production d'opéra, qu'est-ce que ça représente en termes d'empreinte carbone?
Eh bien, si on parle uniquement de la production du décor en lui-même, un décor classique d'opéra, c'est entre 20 et 30 tonnes équivalent CO2 environ.
Est-ce que d'ores et déjà des choses existent? Est-ce qu'on construit différemment de ce que l'on faisait il y a 10 ans, par exemple?
Oui, les pratiques ont vraiment beaucoup changé. Ça a commencé par des petits gestes, des choses simples dans le choix des matériaux, par exemple, dans le fait de oublier de plus en plus le polystyrène ne plus utiliser de peinture à base de solvant, par exemple. Et puis des réflexes qu'on a aussi dans l'atelier qui sont que avant on collait allègrement du bois sur de l'acier, par exemple. ce qui rendait absolument irrécupérable et l'un et l'autre en fin de vie. Et ça, c'est des choses qu'on ne fait absolument plus pour pouvoir, en fin de vie du décor, recycler l'acier d'un côté et les bois et dérivés de l'autre.
Et justement, j'allais vous le demander, que deviennent ces décors une fois qu'ils ont servi sur scène? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les stocke? Est-ce qu'on s'en débarrasse?
Eh bien, on les garde tant qu'ils ont un potentiel de pouvoir rejouer, soit sur le plateau de l'opéra, soit être revendus ou loués dans une autre maison d'opéra. Donc là, nous, actuellement, à l'opéra, on a 180 containers qui contiennent les productions qui ont été créées au cours de ces 20 dernières années et qui, potentiellement, peuvent être reprises. Mais lorsque notre directeur décide de se séparer de certaines d'entre elles, et de les déclasser. Alors à ce moment, on a mis en place un dispositif qui est encore perfectible, mais qui a fait ses preuves en tout cas en 2019, quand on s'est séparé d'un seul coup de 10 productions, et où on a dressé un dossier complet avec le carnet de montage, les listes de pièces qu'on a envoyées à certains de nos collègues, alors essentiellement de la région, pour déjà évaluer qui d'entre eux pouvait être intéressé par tel ou tel élément de décor à récupérer, soit comme élément en effet décoratif, soit même comme élément structurel ou technique. Et donc, lors de du déclassement de ces décors, on a ouvert les containers et une partie de ces personnes, qui sont certaines des compagnies de théâtre ou de muséographie, qui sont venues se servir et piocher dans ces éléments-là pour les réutiliser à leur compte. Et on fait également appel à des associations qui se sont spécialisées là-dedans, dans le fait de donner une seconde vie aux décors d'opéra, soit pour des plus petites compagnies de théâtre, soit pour des festivals, ou soit même parfois pour la construction, le bâtiment. Et ensuite, ce qu'il reste, c'est du tri. Et donc, ce qu'on essaye évidemment, c'est de limiter au maximum ce qui va dans la benne DIB, c'est-à-dire qui sera voué à l'incinération.
Cela dit, Timothée Fleury, avec ce bureau d'études que vous dirigez à l'Opéra de Lyon, vous êtes tourné aussi vers l'avenir, vers comment fabriquer un décor d'opéra aujourd'hui. Vous avez mis en place pour cela deux projets phares dont j'aimerais qu'on parle de ce matin. Le premier a été baptisé EDEOS, un outil d'évaluation de l'impact environnemental des décors d'opéra. C'est quoi? C'est mieux choisir au moment de la construction du décor?
Exactement, c'est même avant la construction. En fait, EDEOS, c'est un calculateur qui nous permet, dès la présentation d'un projet par un metteur en scène et son scénographe, d'estimer le coût environnemental de sa réalisation avant de commencer à le construire et avant même d'en décider les plans. En fait, ça se fait à l'étape de la maquette. Le principe, c'est d'analyser la maquette qui nous est présentée, de la mesurer et d'envisager toutes les solutions techniques qu'on peut mettre en œuvre pour réaliser chaque élément qui la compose et les comparer entre elles pour sélectionner la moins impactante et au final obtenir une valeur d'impact environnemental de l'ensemble de ce décor qu'il s'agit évidemment de minimiser. Ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'on ne regarde pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais on regarde aussi trois autres classes de dommages que sont la qualité des écosystèmes, l'épuisement des ressources et la santé humaine. Et maintenant, grâce à EDEOS, en fait, on est capable d'estimer le coût environnemental d'un projet scénographique au même titre qu'on était capable d'en estimer le coût financier, et de façon quantifiée, de façon chiffrée. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, ça nous permet aujourd'hui de fixer des limites chiffrées. Et de se dire, par exemple, que on s'interdit dorénavant à l'Opéra de Lyon de produire un décor dont le bilan carbone de sa fabrication excède tant de tonnes équivalent CO2. Je donne pas de chiffres parce que justement, on n'a pas encore positionné le curseur. C'est l'une de nos grandes discussions. Mais on est aussi capable aujourd'hui de savoir à l'avance quelle sera la fin de vie de chacun des éléments qui composent le décor. Et donc, on peut là encore fixer une limite en se disant que on s'interdit de produire un décor dont plus de 10%, mettons, de sa masse totale, soit en fin de vie destinée à l'incinération.
Une première version d'EDEOS et de cet outil est utilisée à l'Opéra de Lyon depuis septembre 2019. Tous les scénographes jouent-ils le jeu?
Eh bien, de plus en plus. En fait, le cœur, ce qui est capital là-dedans, c'est de les inviter dans la discussion le plus tôt possible. Et ce que la direction technique de l'Opéra a mis en place depuis quelques années et qui marche très bien, c'est le principe du pré-projet, c'est-à-dire que Au lieu de présenter en grande pompe une maquette finalisée, un projet très abouti, pour se rendre compte après coup qu'il ne rentre pas dans l'enveloppe budgétaire, par exemple, ou qu'il a des contraintes environnementales qui sont excessives, eh bien là, l'idée, c'est d'inviter le scénographe à notre table très en amont, en petit comité, pour qu'il nous définisse les grandes lignes de son projet, et qu'on puisse, avec lui, déjà en chiffrer l'impact environnemental, en chiffrer le coût aussi, et alerter le plus tôt possible sur les problèmes de faisabilité technique, financière ou environnementale. Et ainsi, le scénographe, il participe dès le départ au choix de conception, et il n'a pas l'impression, comme c'était le cas avant, d'être un peu brimé dans sa démarche, ce qui est très compréhensible.
Effectivement. Quelques notes. Cette première mesure de l'ouverture de Béatrice et Bénédicte, opéra d'Hector Berlioz, qui sera à l'affiche de l'opéra à partir du 16 décembre jusqu'au 1er janvier à l'Opéra de Lyon, en partenariat avec France Musique. Timothée Fleury, responsable du bureau d'études de l'Opéra de Lyon, est avec nous pour nous parler d'écologie, de développement durable, d'éco-construction. Et vous aviez envie d'écouter l'ouverture de cet opéra parce que vous avez longuement été présent au sein des murs et assisté aux répétitions de cet opéra qui s'est construit d'une manière tout à fait particulière.
Oui, en fait, c'est surtout la conception de ce décor qui s'est faite de façon très particulière parce que c'est un décor qu'on a intégralement conçu et dessiné pendant le premier confinement, c'est-à-dire chacun chez soi en télétravail. Et ça, c'est pas du tout anodin pour nous qui avons besoin de faire des croquis, échanger des idées, partager, descendre dans l'atelier pour soumettre nos idées et échanger aussi avec nos collègues du plateau. Et tout ça, on n'a pas pu le faire. Et ça a été assez éprouvant pour chacun de nous. Donc Béatrice et Bénédicte, même si ça n'a pas encore joué, c'est déjà pour moi un souvenir marquant.
Et effectivement, on travaille tous dans des conditions très particulières et j'imagine dans tout ce qui est de l'ordre de la création, l'impact que cela peut avoir effectivement de travailler à distance. On parlait de cet outil Edeos avec vous, Timothée Fleury, outil qui a bénéficié du soutien de l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique. Cette première version qui sera diffusée auprès des opéras partenaires de l'Opéra de Lyon avant un éventuel déploiement dans le secteur, on l'espère. Il y a un deuxième projet mis en place, c'est un projet cette fois à l'échelle européenne. Oscar, vous nous en dites quelques mots?
Oui, Oscar, c'est un projet européen d'économie circulaire qui a été sélectionné et qui est soutenu par le programme Europe Créative. C'est un projet qui est piloté par l'Opéra de Lyon, mais qui réunit des acteurs qui sont pas uniquement du secteur culturel, et c'est tout l'intérêt, comme par exemple la chaire UNESCO de Barcelone, qui est spécialisée dans le changement climatique. Il y a la Cité du Design de Saint-Étienne, ou ADMAS, qui est un laboratoire de recherche sur les matériaux à Brno, en République tchèque. Et les objectifs du projet, c'est de réinterroger nos pratiques actuelles dans la gestion des décors d'opéra, pour favoriser les pratiques soutenables, selon les principes de l'économie circulaire. Et ça va se traduire en deux étapes majeures. La première qui est fondamentale et qui a lieu en ce moment, ce sont les chercheurs de la chaire de l'UNESCO qui s'en occupent, c'est de faire un état de l'art des pratiques actuelles. C'est-à-dire qu'ils sont en ce moment en train de questionner les services techniques des opéras européens sur leurs actions environnementales. Qu'est-ce qu'ils font chacun de leur côté pour limiter leurs déchets, éco-concevoir leurs décors, quels matériaux ils utilisent, comment ils gèrent leur stock, etc.
Et justement, au niveau européen, Timothée Fleury, on en est où?
Eh bien, au niveau européen, ce qui se passe actuellement, c'est, outre ce projet-là, Oscar, c'est qu'il y a un consortium de maisons d'opéra, alors francophones actuellement, qui est en train de se créer, qui réunit Opéra de Lyon, Festival d'Aix, Théâtre du Châtelet, Opéra de Paris et Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, et qui sont en train, dont les dirigeants sont en train de se réunir pour réfléchir à une façon de mutualiser les actions environnementales et les savoir-faire et les compétences. Et pour faire en sorte que les actions qui, pour l'instant, en tout cas en éco-conception, se faisaient de façon informelle, entre direction technique, entre bureau d'études, entre ateliers de décor, soient portées, poussées et organisées par les directions. Et on espère que ce consortium-là pourra rayonner ensuite à l'échelle européenne. Parce que pour l'instant, les contacts entre maisons d'opéra existent, mais ils ne sont que des collaborations, en tout cas sur le plan environnemental, et essentiellement souvent au niveau des bureaux d'études et des directions techniques.
Alors je pense qu'une des solutions imaginées justement par ce consortium que vous évoquez, Timothée Fleury, c'est la conception de structures standards, c'est-à-dire, vous nous dites de quoi il s'agit exactement ?
Oui, alors ça c'est notre grand truc à l'Opéra de Lyon. On est devenus des spécialistes dans le fait d'habiller des échafaudages. En gros, le principe c'est de toujours limiter la part à construire. C'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui est structurel dans un décor puisse être intégralement modulaire, démontable, réutilisable.
Vous avez des exemples concrets ?
Oui, tout à fait. Alors soit déjà on utilise des choses qui existent déjà dans le commerce, comme des échafaudages, du pont aluminium, des praticables, des choses comme ça, qu'on habille. Ou bien, quand on conçoit et qu'on construit nous-mêmes, on les conçoit et on construit de sorte que ça puisse être mis dans notre stock qu'on appelle répertoire, c'est-à-dire d'équipements qui peuvent servir à plusieurs productions. Donc on a inventé comme ça des chariots ergonomiques, on a développé une gamme d'escaliers modulaires assez sympa parce que ils permettent d'obtenir de façon sécurisée l'accès à n'importe quelle hauteur, avec un jeu d'assemblage très simple d'éléments élémentaires, et qui nous permet d'éviter de reconstruire à chaque fois un escalier pour être à la bonne hauteur. Donc ça s'assemble comme un Lego et ça se range dans le stock dès qu'on en a plus besoin. Donc ça, c'est vraiment notre truc à nous, c'est d'essayer de construire le moins possible, en gros ne construire que ce qui est visible, et dans cette part-là que l'on construit, essayer de maximiser la réutilisation ou au moins le caractère recyclable de ce qu'on fabrique.
Et limiter ainsi le déplacement de conteneurs d'une maison d'opéra à une autre lorsque deux opéras sont en coproduction, évidemment, avec cette idée. On va revenir, si vous le voulez bien, pour terminer, sur ce projet européen. Oscar, vous nous parliez de deux étapes. Une première qui était donc d'établir un état des lieux, des pratiques dans les maisons européennes d'opéra. Il y a une deuxième étape qui sera ensuite mise sur pied.
Oui, tout à fait. En fait, la deuxième étape, c'est d'appliquer les méthodes de design. Donc, cette fois, c'est la Cité du Design qui pilotera pour analyser nos processus de travail et nos méthodes de management pour se rapprocher d'un fonctionnement plus circulaire moins consommateur d'énergie et de matières premières. En fait, la force de ce projet, Oscar, c'est d'élargir notre champ de vision, de dézoomer, de sortir de nos habitudes d'atelier de décor et de maison d'opéra, et de regarder nos façons de faire avec des yeux de professionnels autres qui ont d'autres compétences, comme les designers, et qui ont aussi des connaissances scientifiques solides, comme les chercheurs de la chaire d'UNESCO.
Et voilà, donc un jour, sans doute, l'opéra deviendra un art écologique, Timothée Fleury, on l'espère du moins, avec ces deux projets très intéressants, Oscar et puis Eleos, dont on parlait ce matin avec vous, qui est responsable de ce bureau d'études à l'Opéra de Lyon. Merci beaucoup, Timothée Fleury, d'avoir été des nôtres pour nous parler de ces projets-là. On va suivre le développement, bien sûr, de ces projets sur France Musique dans cette émission. Bien sûr, je rappelle la production de Béatrice et Bénédicte du Berlioz qui, on l'espère, pourra vous accueillir à partir du 16 décembre à l'Opéra de Lyon. Production en partenariat avec France Musique, sur scène Michel Lozier, Julien Bert, Eve Maudubo, les chœurs et orchestres de l'Opéra de Lyon, bien sûr, mise en scène Damiano Micheletto. Vous pouvez, chers auditeurs, échanger et annuler sans frais vos billets pour les spectacles jusqu'à 24 heures avant le début des représentations. Donc n'hésitez pas à aller prendre vos tickets pour cette production à découvrir. Timothée Fleury, merci beaucoup et bonne journée à vous, bonne continuation.
Merci à vous Saskia, à très bientôt.
Presto, troisième mouvement du concerto pour piano en sol majeur de Maurice Ravel, François Dumont, l'Orchestre National de Lyon et Leonard Slatkin à la direction. Il est 8h50 sur France Musique.
Chère auditrice, chère auditeur, chère auditrice, chère auditeur.
L'heure, et c'est l'heure de la chronique de mon bon Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Eh bien bonjour Saskia. Comment
c'est quoi le programme? Mais super, super.
Le programme, c'est qu'on va écouter, on va parler de Guillaume Connaisson.
C'est parti.
C'est parti. Oh, c'est parti. Quelle vitalité, hein. Alors moi j'ai eu la chance de connaître Guillaume Connaisson en 98, je crois, ça s'appelait Feu d'artifice peut-être, et c'était dans cette maison, la maison de la radio. J'ai pris une claque, je me suis dit, ah oui, enfin, un gars français qui a pas peur, qui est audacieux, qui est séducteur, et qui, enfin notre John Adams français en gros quoi. J'ai adoré vraiment, et ça c'est sorti en 2002, ça s'appelle Techno Parade. Alors, les titres, déjà, on sent que Guillaume Connaisson vit avec son époque. Il est né en 1970, et donc je crois que c'est un peu le compositeur français le plus joué. C'est pas étonnant, c'est très populaire, c'est très accessible. C'est, C'est rapide, il y a de la pulse, c'est brillant, il y a des explosions, il y a de l'humour, de beaucoup de lumière. Et donc voilà, lui, j'ai l'impression qu'il part vraiment de la danse et du chant. Même si c'est difficile à chanter, là, ce qu'on entend. Ça, vous entendez cet ostinato, là? On va l'écouter un petit peu mieux. Donc, dans le deuxième extrait, on a un ostinato comme ça, de piano. Vous allez voir. Un mi bémol. Ça, là. Donc, ça s'appelle Techno Parade. Donc, on sent vraiment qu'il est un compositeur qui écoute toutes les autres choses, qui n'écoute pas que de la musique classique, etc. Donc, qui écoute du funk, qui écoute voilà, de la techno, de la musique électronique. Je vous ai fait une petite modification de cet ostinato. On va écouter le troisième extrait, s'il vous plaît. Je vous l'ai mis en boucle. Et j'ai rajouté de la basse. C'est pour montrer à quel point cette musique, elle est potentiellement électronique. Là, je la modifie. Je lui change sa tonalité. Bon, voilà, j'espère qu'il m'en voudra pas.
C'est ce que j'avais dit, il faut imaginer une collaboration, là.
Non, mais c'est pour montrer vraiment à quel point donc cette musique, elle est de son temps, c'est-à-dire qu'elle est paternable, elle est découpable en petites cellules. Bon, c'est pas la réduire hein, que de dire ça, mais enfin moi je la trouve fantastique cette musique. Elle me parle vachement parce qu'on sent qu'il y a le rock dedans, qu'il y a le jazz. Bon, il y a pas d'improvisation, mais c'est comme des improvisations écrites. D'ailleurs, je crois qu'il a sorti un dernier disque qui s'appelle Lost Horizon, qui est pour un concerto pour saxophone et orchestre. Et il y a un passage dedans qui s'appelle Coltrane on the dance floor, quelque chose comme ça. Donc il est très, il s'amuse avec les
et
titres.
Il y a de l'humour,
beaucoup. Ouais, il y a beaucoup d'humour. Ouais. Donc j'aime beaucoup vraiment. C'est bon au niveau des motifs de piano. Il y a on entend Ravel, Debussy, Dutilleux, tout ça. Et c'est vraiment tout ce qui me plaît moi dans cette musique un peu moderne, on va dire. Et je ne sais pas pourquoi c'est pas plus interpénétré les mondes. C'est-à-dire pourquoi les gens autour de moi ne connaissent pas dans le milieu du jazz, etc. Et bon, il est très connu. Hein. Mais je veux dire, ça se pénètre pas plus. Je veux dire, tout le monde devrait écouter cette musique. Elle est fantastique. Il y a tellement de joie, tellement c'est tellement accessible et en même temps tellement complexe. On va écouter, par exemple, dans le double quatuor. Dans ce double quatuor, on va écouter un petit peu le double quatuor. C'est un quatuor de bois et un quatuor à cordes. C'est ça. Et la question. C'est stylé, hein, quand même. Hein.
J'aime beaucoup.
Tout le monde aime ça, quoi, j'imagine, non, quand même.
Moi, je me rappelle d'un spectacle au Centre de musique de chambre, c'était il y a un an tout pile. C'était un mélange entre Carnaval des Agneaux de Saint-Saëns et Jurassic Trip de Guillaume Canet.
Ah oui.
C'était absolument génial.
C'est super, ouais, vraiment. Et dans Technoparade, le disque, il y a Jurassic Trip tout à la fin. Il y a le rire de Sarah, des pièces pour piano, mais fantastique. Une virtuosité. Alors les musiciens, peut-être je citais quand même Éric Lesage au piano, je crois. Bon, je vous cite le pianiste parce que je suis pianiste, mais il y a Mathieu Dufour à la flûte, Emmanuel Pahud, Paul Meyer clarinette, Xavier Philips violoncelle et François Meyer au bois.
Que du beau monde.
Voilà, donc et le Quatuor Parisien, voilà. Donc, et Franck Bralet au piano aussi. Voilà, le double quatuor, bah, ça m'a fait penser à Magma, figurez-vous. Pour vous dire un peu voilà, écoute. J'ai fait un petit montage entre Magma et Connaissons. Là, j'ai fait une boucle. Vous voyez la parenté ou pas?
Oui, oui.
Un petit peu.
Non, mais si.
Ok. Disco Atta. Et là, j'ai mis les deux en même temps. Disco Atta. Bon, voilà, moi, c'est une musique que je trouve très moderne. J'aimerais que tout le monde la connaisse. Bon, il est très, ça va, il n'y a pas de problème pour
on
lui.
On va encore écouter un extrait.
Oui, Christophe. Alors je voudrais vous faire écouter un extrait, le Sextuor Nocturne, parce que il fait pas que de la vitalité, il n'y a pas que de la vitalité, il y a aussi des choses très belles, très profondes. Voilà, un peu. On écoute. Il est mûr, hein, ce type. Hein.
Ouais.
Et voilà, bah, tout est bien en fait hein, chez lui, hein, moi, vraiment en fait.
Bien, voilà les suggestions de Christophe Chassol ce matin, Guillaume Connaisson, que je soutiens entièrement. Hein.
Ouais.
Et j'espère qu'il nous écoute et qu'il nous donnera son avis sur ce mélange avec
pas,
Magma.
Je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu.
Ben voilà, on essaiera de le joindre pour lui demander ce qu'il en a pensé. Merci beaucoup Christophe pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. Voilà qui termine cette émission sur France Musique. Un petit mot vite sur notre concours. Je vous proposais de remporter un disque. Je sens que vous attendez ma question.
Oui,
de ça. Le disque Le Grand Jeu, florilège d'œuvres baroques françaises enregistrées par Gaëtan Jarry. Il fallait pour cela deviner le nom du roi soleil. Est-ce Philippe de Belgique, Charlemagne ou Louis XIV? Une petite idée Christophe?
Bah, Louis-Croix-Vébaton.
Louis-Croix-Vébaton, exactement. Exactement. Et bien le gagnant qui aura bien répondu à cette question sera recontacté par email.
À réécouter sur francemusique.fr.